sur 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au football de l'ex-URSS et d'un gardien qui a marqué l'histoire du football des années 1960-1970, le gardien de but Lev Yashin. Le 10 juillet 1960, à Colombes, l'URSS devient championne d'Europe face à la Yougoslavie, 2-1. Elle l'emporte à la 113e minute en prolongation. La France a été éliminée par la Yougoslavie. On a souvent opposé l'URSS de Khrouchtchev, qui a succédé à Staline en 1953, à la Yougoslavie de Tito. Deux modèles politiques qui se font face, car la Yougoslavie n'appartient pas au bloc de l'Est. On doit à Henri Delaunay, un compagnon de route de Jules Rimet, l'inventeur de la Coupe du Monde, la mise en place de cette compétition. 16 nations participent à la compétition. Les grands pays de l'Ouest, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne de l'Ouest, Italie, n'y participent pas. Le gardien de but de l'équipe d'URSS s'appelle Lev Yashin. Il est considéré comme le meilleur gardien de but de tous les temps. Il est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or, qui lui est attribué en 1963. Il a été en effet le premier joueur à ce poste que l'on peut qualifier de moderne, tactiquement et techniquement. N'ayant pas peur de sortir de sa ligne pour contrer le porteur du ballon, il a également été le précurseur des parades réflexes, des sorties aériennes, ou avec les poings connus et apprises par tous les gardiens d'aujourd'hui. Sa tunique entièrement noire, souvent accompagnée d'une casquette de la même couleur, lui valurent le surnom d'araignée noire, comparant sa cage de but à une toile imprenable. Il était grand, 1m89. On l'appellera aussi la panthère noire. Il est parmi les trois soviétiques les plus célèbres des années 1960, avec le cosmonaute Youri Gagarin et le secrétaire général du Parti communiste Nikita Khrouchtchev. Lev Ivanovitch Yashin est né le 22 octobre 1929 à Moscou. Son père est ouvrier dans l'usine Tushino. Il a perdu sa mère jeune. À 13 ans, Lev Yashin entre comme apprenti dans l'usine qui emploie ses parents à Tushino, dans la banlieue de Moscou. Nous sommes en 1942 et il faut soutenir l'effort de guerre dans la guerre contre l'occupant nazi. Ensuite, la famille est déplacée pendant plus de 2 ans à Ulyanovsk, dans la région de la Volga, à 900 km à l'est de Moscou. Il aurait été apprenti serrurier, le métier de son père. De retour à Moscou, il aurait joué dans l'équipe de l'usine, à Tushino. Lev Yashin fait ses débuts pour le club moscovite du Dynamo en 1950. Il dispute ainsi seulement quelques rencontres durant ses premières années au club, jouant principalement avec l'équipe réserve, tout en gardant également les buts de l'équipe de hockey du Dynamo. Il s'impose à partir de 1953 dans les buts de l'équipe de football. Il passe toute sa carrière au Dynamo, club pour lequel il dispute 326 matchs dans le championnat d'URSS entre 1950 et 1970. Il remporte l'épreuve à 5 reprises ainsi que 3 coupes d'URSS. Cependant, à l'époque de Yashin, le Dynamo n'a pas pris part aux compétitions européennes. Lev Yashin fait ses débuts internationaux en 1954 et compte 78 sélections en équipe d'URSS. Avec l'équipe soviétique, il est médaillé d'or aux Jeux de Melbourne en 1956. Aux Jeux olympiques, le bloc de l'Est domine les tournois olympiques de football, les professionnels de l'Ouest n'y participant pas au nom d'un idéal de l'amateurisme. Il nous faut aborder ici le sport soviétique durant la guerre froide. Pour la première fois depuis 1912 et les Jeux de Stockholm, les Soviétiques participent aux Jeux Olympiques, et ce sont à ceux d'Helsinki, en juillet 1952. Le sportif soviétique est malgré lui un soldat de la guerre froide. L'affrontement Est-Ouest se fait aussi dans le sport. Et il ne faut pas laisser dans ce domaine le leadership aux États-Unis. En 1917, les bolcheviks prônent le sport pour une meilleure hygiène pour le corps ouvrier. Le football est arrivé via l'Angleterre dans la Russie tsariste. Le football est donc mal vu. La fièvre des records, précisément l'haltérophilie à la fin des années 1930, gagne le régime communiste. Un homme nouveau, mais aussi un nouveau modèle social sont prônés. L'URSS trouve d'ailleurs des relais dans les pays occidentaux. En France, avec la Fédération sportive et gymnique du travail, FCGT, qui encadre le sport ouvrier sous l'égide du Parti communiste, ou en Italie, avec l'Union italienne du sport populaire. En 1956, en fin d'année, lors des Jeux olympiques de Melbourne en Australie, la demi-finale de water-polo oppose soviétiques et hongrois, et elle se termine violemment. L'insurrection hongroise, fortement réprimée par les troupes soviétiques il y a tout juste un mois avant les Jeux, est dans toutes les mémoires. À Melbourne, un officier de l'armée, natif de la frontière de l'Ukraine, passé par la guerre patriotique et la flotte de la Baltique, Vladimir Kutz, devient champion olympique du 5000 et du 10 000 mètres. En URSS, un jeune paysan peut donc devenir champion olympique. L'objectif des déplacements des soviétiques à l'étranger est aussi de faire vivre la mère patrie, communiste chez l'ennemi capitaliste. À Helsinki, on commémore l'endroit de la rencontre Lénine-Staline. À Londres, on se rend sur la tombe de Karl Marx. En France, on visite dans le 14e arrondissement le petit appartement de la rue Marie-Rose où Lénine s'est installé entre 1908 et 1912, sans oublier qu'il a aussi vécu près de Paris à Longjumeau. En 1964, après avoir été champion d'Europe de football en 1960, les Soviétiques atteignent la finale et s'inclinent face à l'Espagne. L'URSS remporte toutes les médailles olympiques en gymnastique féminine par équipe de 1952 à 1972. Émerge en 1972 la gymnaste Olga Korbut, dont le père a été un vétéran de la guerre, et des gymnastes qui représentent la diversité des peuples de l'Empire soviétique. Olga Korbut deviendra une icône pour le public américain, au même titre que sa compatriote Nelly Kim ou la roumaine Nadia Comăneci. Yashin participe à 3 Coupes du monde de football. En 1958 et 1962, l'équipe d'URSS passe le premier tour et est éliminée en quart de finale. En 1962, il tient sa place alors qu'il souffre d'un traumatisme crânien. Il commet des erreurs devant la Colombie et le pays hôte, le Chili. L'URSS atteint les demi-finales de la Coupe du Monde en 1966 et à 36 ans, Yashin est élu meilleur gardien du tournoi. Enfin, Yashin fait partie de la sélection soviétique lors de la Coupe du Monde 1970. Alors âgé de 40 ans, il est appelé en tant que titulaire, mais préfère laisser sa place à un jeune gardien. Le match d'adieu de Lev Yashin est organisé au stade Lénine en mai 1971. À cette occasion, le Dynamo rencontre devant 100 000 spectateurs une sélection internationale composée entre autres du Britannique Bobby Charlton et de l'Allemand Gerd Müller. Yashin est amputé d'une jambe à la suite d'une phlébite en 1986 et meurt le 20 mars 1990 des suites d'un cancer de l'estomac. Le trophée du meilleur gardien de but de la Coupe du Monde de football, créé en 1994, porte son nom. Le trophée Lev Yashin a été attribué à Michel Preud'homme, le Belge, en 1994, au Français Fabien Barthez en 1998, à l'Allemand Oliver Kahn en 2002, à l'Italien Gianluigi Buffon en 2006. Lev Yashin reste une légende en Russie. L'ancien auquel sont comparés les meilleurs gardiens de but du moment, comme Rinat Datsayev durant les années 1980 ou encore Igor Akinfeev dans les années 2000. Le sport est un instrument politique et le pouvoir soviétique l'a très bien vite compris. Outil de propagande et de promotion de l'homme idéal, en bonne santé, le sport a servi à établir la fierté, l'attachement national et l'esprit soviétique. Dans ce contexte, Dmitri Chostakovitch, 1906-1975, compose en 1929 la musique du ballet « L'âge d'or ». Ce ballet en 3 actes sur un livret d'Alexandre Ivanovsky raconte l'épopée d'une équipe de footballeurs russes en Occident. Chostakovitch thématise le contraste entre un bloc de l'Ouest décadent et une patrie soviétique solide et robuste. L'équipe de football est harcelée et les joueurs sont même emprisonnés. Les personnages de l'Ouest sont caricaturaux, politiquement incorrects, voire fascistes. Finalement, les footballeurs russes sont libérés par des ouvriers occidentaux qui se révoltent contre l'oppresseur et la bourgeoisie corrompue. Le ballet se termine sur une danse commune des ouvriers et des footballeurs devenus solidaires. Tout était réuni pour que l'âge d'or devienne un classique presque parfait de la propagande communiste. Pour servir la satire de l'Occident, le ballet donnait à voir des chorégraphies de cancan, tango ou claquettes, alors interdites à Nurs. Face au succès de ces danses sur le public, le pouvoir décida finalement d'interdire l'œuvre après seulement 18 représentations. Le destin de l'âge d'or résume bien toute la complexité du rapport entre le pouvoir soviétique et Chostakovitch. En 1936, la Pravda critique l'opéra Lady Macbeth après que Staline ait détesté une représentation à l'opéra de Bolchoï. Le même sort sera réservé à son ballet Le Clair Ruisseau et Chostakovitch devient en quelques mois un ennemi du peuple, sa musique étant considérée trop élitiste, mais il échappe finalement à la déportation. Le compositeur reviendra en grâce dans les années 1940, mais sa relation au pouvoir restera complexe jusqu'à sa mort en 1975.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.